Le livre de l'Exode, je vais dire en français, le livre de l'Exode. Je veux simplement vous rappeler que la dénomination des cinq parties de la Torah, en hébreu ça se dit Chamisha Chumshe Torah. Chacun des livres est appelé un Chumash, en hébreu ça veut dire un cinquième, puisqu'il y a cinq livres. Chamisha Chumshe Torah, ça signifie les cinq cinquièmes de la Torah. La raison pour laquelle le texte de la Torah a été divisé en cinq parties est indiqué par le Midrash, mais je ne voudrais pas en parler maintenant, ça me prendrait trop de temps. Et c'est important de savoir qu'il y a cinq sujets différents qui se déroulent à travers tout ce texte de la Torah. Alors, le premier, c'est en hébreu Bereshit. Bereshit, qui se traduit par au commencement, ce n'est pas la traduction très exacte d'après les commentaires du Midrash. Ça, je ne voudrais pas en parler non plus, ça prendrait trop de temps. Mais c'est la traduction habituelle des traducteurs, pardon, de traduire au commencement. Le Midrash donne une lecture beaucoup plus précise. J'en dirai juste quelques mots pour que vous perceviez les difficultés de traduction, tout simplement. Rashi a posé d'ailleurs la question en disant que ce mot de Bereshit, traduit par au commencement, serait un barbarisme. Parce que au commencement, c'est un smichut en hébreu. Bereshit de quelque chose. Or, ici, il est employé dans le sens de l'absolu. Dans un sens absolu, Bereshit. Ce qui n'est pas le cas dans le texte de la Bible, dans le Mikra en général. Vous verrez d'ailleurs que le Taham, l'accentuation qu'il y a pour ceux qui savent lire les Tahamim, sous le mot de Bereshit, est un accent disjonctif, c'est-à-dire qui isole le mot de Bereshit de la suite. Et Rashi pose la question suivante, c'est le deuxième Rashi, le deuxième commentaire de Rashi sur ce verset. Si ça voulait dire qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il aurait créé après? Or, c'est un récit qui est étalé sur 6 jours. Donc, c'est qu'on ne sait pas traduire exactement ce que ça veut dire en hébreu. Et alors, ici, le Midrash, et l'interprétation du Midrash, dans toute autre catégorie. C'est une notion de projet qui va être révélée à travers l'histoire du monde. Cette notion de commencement, en hébreu, qui se dit Bereshit, appelle la notion corollaire d'un terme, d'une visée, de quelque chose qui sera en fin de compte. Et c'est le mot hébreu de She'erit, qui s'écrit d'ailleurs avec les mêmes lettres. On va attendre 2 minutes tout à l'heure pour l'installer. Il faudrait mieux traduire par le mot de Bereshit par l'expression française. Par commencement, le bet, ça peut se traduire en hébreu, soit avec, soit dans. Alors, avec un projet qui a un commencement. Et c'est une histoire qui aboutira à un shérit, un reste. Et tous les éléments de ce reste sont déjà dans le commencement, c'est les mêmes lettres. Le mot de shérit et le mot de reshit ont les mêmes lettres. Mais il y a tout un processus d'agencement à travers l'histoire du monde, de ce qui a été créé au commencement, qui doit aboutir à une certaine finalité. Donc c'est une toute autre catégorie que le Midrash nous explique sur ce verset. Et simplement, je vous signale dans cet exemple que la correspondance des traducteurs pour les noms des 5 livres de la Torah de Moïse n'est pas toujours très, très précise. Et en effet, la notion même de commencement, dans ce verset-là, introduit une difficulté d'exégèse incontournable. Que je vous signale en passant, Bereshit bara, au commencement Dieu créa. Ce mot de au commencement est en plus. Donc ça ne peut pas être ni avant ni après le commencement que Dieu a créé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Qu'est-ce que ça veut dire au commencement Dieu créa? Puisque l'instant de la création, c'est lui-même l'instant du commencement. Va être ni avant la création, ni après la création. Et par conséquent, ça veut dire on lit un autre verset. On lit en général la traduction grecque du verset hébreu, qu'on traduit dans notre langue, comme par exemple en France. Bon, alors donc, les traducteurs ont l'habitude de traduire Bereshit par la Genèse. Ça vient d'un mot grec qui signifie la création. Et un sens dérivé, ce qu'il y a au début des engendrements de quelque chose. C'est la même racine en grec. Ensuite, Shemot, c'est là où je vous en ai arrivé, le livre de Shemot, les traducteurs le traduisent par l'Exode. Et là, je vais mettre en évidence que derrière ces différences de traduction, il y a des options intellectuelles qu'il faut toujours déceler. Pourquoi la tradition hébraïque a l'habitude de définir un texte ou un livre, que ce soit une paracha ou un livre de la Torah, par le premier mot important du verset? Ça, c'est une familiarité de la tradition hébraïque. Le premier mot important donne la signification du thème général du texte dont on va parler. Et Shemot, c'est le premier mot important de notre paracha, donc du livre. Et on va rappeler les noms des enfants d'Israël qui étaient descendus en exil. Un des Midrashim met en évidence le fait qu'ils ont gardé leur nom. Quand ils sont descendus en exil, dans la paracha de Vaïgash, à la fin de la Genèse, la Torah énumère les noms des enfants de Jacob, les enfants d'Israël, et voilà qu'à la sortie d'Égypte, on retrouve les mêmes noms, fondamentalement les noms des fondateurs des tribus. Ils étaient 70 en descendant en Égypte, et vous lirez les premiers versets de notre paracha. Le texte a tenu à nous faire savoir cela, dit le Midrash. Et c'est un problème qui nous permet de diagnostiquer quelque chose d'important dans l'histoire des exils. Est-ce que le peuple d'Israël descendu en exil avec une certaine dénomination hébraïque va se retrouver à la fin de l'exil avec cette même dénomination, ou est-ce qu'il va y avoir une dénaturation de son identité? Le Midrash qui parle de cela se situe au temps de l'occupation romaine, et alors les maîtres du Midrash prennent des références dans les noms romains de l'époque. Et alors le Midrash dit « Reuben est resté Reuben, il n'est pas devenu Rufus », etc. Et vous voyez l'analogie avec les noms contemporains. Les Juifs sont descendus dans l'exil de Rome avec des noms judéens, et puis ils reviennent avec des noms européens. Je me souviens encore, c'est plus que du folklore, c'est de la sociologie qui est étudiée minutieusement par les sociologues, que dans certaines communautés, on avait dit de donner un doublet français au nom qu'on donnait aux enfants. Ça dépend des communautés, mais grosso modo, je vous dirai quelques exemples, ça vous êtes familier. Par exemple, les enfants qu'on appelait Moshe, Moïse, puisqu'il va s'agir de Moïse, on les appelait Maurice en français. Enfin, je donne des exemples du folklore algérien, mais je crois que c'était un peu comme ça dans les autres pays francophones. Ou bien Abraham, ça devenait Albert. Jacob, ça devenait Jacques. Et alors, ça dépend, parce que dans beaucoup de communautés ashkénazes, c'est Isaac qui devenait Jacques. Mais vous voyez ce qui se passe là. Le Midrash l'a décelé déjà au temps de l'occupation romaine en nous parlant de ce problème, les noms. Et voilà où j'en ai arrivé. Donc c'est très important. Il y a un Midrash qui dit, je le signale très rapidement, je ne veux pas l'étudier à cause du temps, mais il y a quatre mérites qui ont fait que les Hébreux sont sortis d'Égypte. Et les quatre mérites en question sont des fidélités nationales et non pas du tout des fidélités religieuses, comme vous pouvez le croire lorsqu'on étudie ce problème de la Aliya. Quelle est la motivation de la Aliya, c'est-à-dire la fin de l'exil, du retour au pays? Est-ce que ce sont des motivations d'abord religieuses ou ce sont des motivations d'abord nationales? Étant donné que la religion d'Israël est une religion nationale, c'est un problème qui est un peu brouillé. Et les critères se mélangent, s'amalgament. Il est évident que selon le Midrash, les critères de mérite, grâce à quel mérite les Hébreux sont sortis d'Égypte, sont tous des critères nationaux. En particulier, ils n'ont pas changé leur nom. Et vous savez à quel point d'ailleurs, par exemple après la Shoah, ça a été un problème des sociétés juives en Europe. Énormément de Juifs ont changé pas seulement leur prénom, mais ont changé leur nom de famille, en espérant se camoufler. Mais comme vous savez, tous les services secrets ont des moyens de détection, qu'est-ce qui se cache derrière ces noms d'emprunt des Juifs qui ont changé leur nom. Ils recherchent ça jusqu'à la quatrième génération, comme vous savez. Vous connaissez toutes les histoires qu'on raconte à ce propos des Juifs avec des noms très très juifs qui demandent à l'état civil de s'appeler Dupont. Et alors, pas que on leur demandait avant Dupont c'était quoi, alors après Dupont il s'appelle Durand, vous avez pu se dire après Durand, avant Durand c'était Dupont. J'ai connu des gens comme ça, et des gens qui étaient très, comme on dit, des bons juifs, mais voulaient se mettre à l'abri. Bon, mais là où je vais en arriver, c'est que les traducteurs traduisent, donnent comme titre à ce livre de Shemot l'Exode. Regardez ce qui se passe derrière. L'exode, ça veut dire lorsqu'on quitte chez soi pour aller en exil. Or ici, il s'agissait de quitter l'exil pour entrer chez soi. Voilà comment on appelle la sortie d'Égypte. En français, on l'appelle l'exode. Est-ce que vous percevez le... Ça me rappelle une anecdote israélienne. Vous savez que certaines villes du Nord ont été peuplées dans les années 30 par les premiers rescapés allemands du nazisme. Prédera, là-haut, Maria. Et alors on raconte tous les personnes âgées de ces villes encore, ne parlent pas encore hébreu, ils parlent entre eux allemand. Ils n'ont pas encore eu le temps, à l'époque, il fallait construire le pays, ils n'avaient pas le temps d'aller au Pan. Et alors j'ai souvent voyagé les premières années dans ces villes, c'est touchant de voir à quel point ils sont de fidélité de culture allemande très, très, très profonde. Et alors on raconte dans ces milieux que vous savez qu'il y a une formule dans les prières où on fait allusion à l'exil. Donc, la formule dit Galinu, Galinu, nous avons été exilés, Mertzenu, de notre pays. Alors ils avaient l'habitude de dire, et c'est pas une boutade, c'est plus profond que ça. Quand ils sont arrivés, ils ont dit Galinu, Mertzenu, nous avons été exilés dans notre pays. Énormément de juifs qui arrivent en Israël ont l'impression d'être exilés de leur pays natal. C'est un peu ce qui se cache derrière cette traduction de l'exode. Je vais reprendre ce problème à propos de l'identité de Moïse tout à l'heure, puisque le personnage central du récit qui va apparaître dans ces textes est Moïse lui-même. Par exemple, donc Bereshit, Shmot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Je ne continue pas le parallèle, simplement je vais vous montrer qu'ici, il y a un cas particulier. Et au lieu de mettre en évidence la fidélité hébraïque au nom qu'ils ont gardé, malgré l'aminoir, l'assimilation en Égypte, eh bien, les traducteurs et les traducteurs juifs ont adopté ça, appellent ça l'exode. Bien. Quoi qu'il en soit, tout de suite, nous sommes interpellés par la personnalité de Moïse. Nous allons lire quelques versets tout au début, parce que je voudrais, pour aborder la définition du profil d'identité de Moïse, rappeler d'abord celle de Joseph, et ce que fait le texte d'ailleurs. Prenez tout au début le premier verset. Alors, je traduis très rapidement les trois premiers versets, les quatre premiers versets, cinq. Et voici les noms des enfants d'Israël, Abaïm, Mitzraïma, venus en Égypte. En fait, il y a un présent. Ça s'étudie aussi. Pourquoi c'est un présent et pas un passé? Et Yaakov, avec Jacob, en compagnie de Jacob, Ish, Beto, Baou, chacun est venu avec sa maison, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zulun, Benjamin, Dan, Venastali, Gad, Ve'asher. Vaïhi, Kol Nefesh, Yotzei, Yeref, Yaakov. Or, le nombre des personnes sorties de l'ange de Jacob, de la descendance de Jacob, était au nombre de 70, suivi de la flèche. Mais Yosef, Ayav et Misraïm. Et Joseph était en Égypte. Regardez la différence. Les frères de Joseph sont allés avec Jacob, Mitzraïma. Vous avez le mot dans le premier verset. Mitzraïma, c'est en direction de l'Égypte. Alors que le texte précise, Mais Yosef, Ayav et Misraïm. Ici, il y a un thème extrêmement important. On voit dans les textes précédents qu'il y a une réticence de la famille de Jacob de s'installer dans l'Égypte même. Il y a déjà la mise en place des grandes différences de ce qu'on pourrait appeler la conception de la société chez les Égyptiens et chez les Hébreux. Un exemple à travers les rêves de Joseph, à travers les conséquences des rêves du Pharaon que Joseph a expliqué, c'est que la stratégie de politique sociale que le pharaon avait installé sur les conseils de Joseph, ça avait été finalement un régime où le pays n'appartenait plus à ses habitants, mais il appartenait au pharaon et à son parti. Il y avait en Égypte, et c'est indiqué souvent dans beaucoup de versets, vous allez le dire suffisamment clair parce que je vais un peu vite, le pharaon, ses serviteurs et les Égyptiens. Il y avait le pharaon et ses serviteurs, disons le parti de la cour, ses courtisans, et les Égyptiens, je crois que le seul modèle qui peut nous éclairer d'une civilisation un peu parallèle, ça a été la Russie soviétique. Vous aviez le dictateur, le parti du dictateur et d'autre part les habitants du pays. Or, d'après ce critère que je voudrais mettre en évidence, c'est très frappant, c'était très parallèle. Finalement, le pays n'appartenait pas à ses habitants, il appartenait au parti. Est-ce que c'est bien clair? Ça a été déjà indiqué dans les commentaires du Midrash, lorsque Dieu annonce à Abraham l'éventualité de l'exil. Le verset, c'est « Yado arteda, qui est zaracha beres lolaim »« Savoir que tu sauras, que ta descendance sera étrangère dans un pays lolaim qui n'est pas à eux. » La lecture habituelle qui n'est pas à eux, à tes enfants, toi, Abraham, les Hébreux. Mais en fait, c'est écrit le pays qui n'appartient pas à ses propres habitants. C'est-à-dire, c'est un système totalitaire. La même idée se retrouve dans le commentaire sur le premier verset des 10 commandements, qui t'est fait sortir d'Égypte, du pays des esclaves, de la maison des esclaves. Les esclaves, c'est les Égyptiens eux-mêmes. Et de la maison où on est esclave. Les Hébreux étaient désignés en Égypte par le Midrash comme Avadim la Avadim, esclaves d'esclaves. Je crois, dans mon expérience en tout cas, de diagnostic, d'analogie, si vous voulez, des sociétés humaines, je crois que c'est évidemment l'Empire soviétique qui a montré la plus grande analogie avec ce système impérial des pharaons. C'était très différent au temps d'Assuérus en Perse. Il y avait le même système d'empire totalitaire avec le dictateur Assuérus, un dictateur débonnaire, celui-là. Et puis il y avait le parti de la cour qui était le parti des Amalécites. Et puis il y avait les peuples, les différentes provinces. La constitution de l'empire perse au temps d'Assuérus était officiellement très libérale. Mais la réalité était une réalité d'asservissement des minorités. Alors que dans l'Égypte des pharaons, nous verrons la différence à deux niveaux. Le pharaon de Joseph est un pharaon libéral, mais le pharaon du temps de Moïse était déjà un dictateur de régime autoritaire. Mais c'est déjà Joseph qui avait mis en germe les principes qui ont mené au totalitarisme socio-économique de l'Égypte. Mais la grande différence qui nous est montrée dans le texte, entre la structure de la société hébraïque que la Torah veut induire et d'autre part la structure de la société égyptienne, je donnerai deux critères parmi d'autres. C'est d'une part que dans la société hébraïque de la Torah, les Kohanim n'ont pas participation au problème économique et ne possèdent pas un héritage terrestre, alors que chez les Égyptiens, c'est l'inverse. C'est les Kohanim, c'est le parti de la cour et les prêtres de la cour qui possèdent le pays. La différence. Et puis d'autre part, quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus important, on apprend que les Égyptiens ont les bergers en horreur, alors que Israël c'est un peuple de bergers. Si vous rattachez ça au conflit Caïn-Abel à l'origine de l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ces deux sociétés sont tout aussi rivales que étaient rivaux Caïn et Abel. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail de l'analyse, mais je signale cette perspective. Je vais la même petite parenthèse. Le Shla, l'un des grands auteurs du monde ashkenaz des derniers siècles, le Shnei Luchot Abrim, c'était une famille de rabbins du sud de la Russie, mais qui était originaire de l'inquisition d'Espagne, une famille alévi, qui s'était installée dans une province dont le seigneur s'appelait Horowitz. Alors leur nom de famille, c'était Alévi Horowitz. Eh bien, vous avez comme ça énormément de noms de familles juives. Qui était le nom du seigneur de l'endroit, des bras juifs, surtout pour le Shlav. Et alors, il enseigne cela, c'est que finalement le conflit entre Caïn et Abel va se résoudre dans le conflit entre Moïse et l'Égypte. Je reviendrai à cela tout à l'heure, si ça m'échappera, rappelez-le-moi d'ailleurs, quand j'en arrive dans le récit. Eh bien, en fait, ce qu'on apprend ici, c'est que seul Joseph est capable d'être dans l'Égypte et résister aux tentations de l'assimilation à la société égyptienne. Alors que ses frères s'installent en direction de l'Égypte, ils s'installent dans une province qui est une marche, je crois que c'est comme ça qu'on disait en géographie, une marche de l'Égypte qui est le pays du Goshen, mais pas dans l'Égypte même. Si vous voulez, une sorte de province ghetto. Parce que en être en plein dans la société égyptienne aurait abouti à une érosion d'identité beaucoup plus rapide que celle qui a eu lieu finalement quand même. Il y a une vie de perte d'identité, donc il a fallu accélérer le temps de la sortie d'Égypte. Ça, c'est les raisons de cette accélération des événements qui nous sont racontés dans les trois premières parachutes. Au lieu de 400 ans d'exil, il n'y aura que 210 ans, parce que si le peuple israël restait trop longtemps en exil, les deux causes habituelles du danger dans l'exil auraient joué. La première, c'est la cause extérieure, la persécution. La deuxième, c'est la cause intérieure, l'assimilation. Dans tous les exils, nous sommes aux prises avec ces deux problèmes. Les problèmes qui préoccupent les chefs de la communauté juive de diaspora, quelle que soit la diaspora, c'est la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'assimilation. Et ces deux périls qui étaient installés en grand en Égypte, la civilisation égyptienne de ce temps était une haute civilisation. Vous ne savez pas, c'est des primitifs. Et il y a une séduction que le Midrash signale. Il y a un héroïsme de résistance à cette séduction, à l'assimilation à l'identité égyptienne. Or, on a ce cas particulier de Joseph qui est mis en évidence par le Midrash. Mais Yosef Haya Ben Mitzrayim, mais Joseph était dans l'Égypte. Lui, c'est le seul profil d'identité de la communauté d'Israël capable d'être dans le palais du Pharaon et rester hébreu, secrètement, mais de rester hébreu quand même. Et les autres doivent s'enfermer dans un ghetto, sinon ils ne résisteraient pas. Bon, là, très schématiquement, vous retrouvez le drame des sociétés juives dans la diaspora. Je pense que c'est suffisamment clair. Et énormément de grands juifs de diaspora ont joué, je veux dire, avec Joseph. Le seul qui restait vraiment hébreu, ça a été ce Joseph-là, celui du récit. Tous les autres ont pris parti pour leur pharaon. Ils sont devenus le Joseph de leur pharaon. Vous vous rappelez dans la suite du rachat de Vaïdash, quand Judas interpelle Joseph en lui disant, au moment où il va l'obliger à se dévoiler, en lui disant « Ki kavocha ke pharaon ». Le grand danger pour Joseph, c'est finalement de se mettre au service de la civilisation du temps, au point de, je ne sais pas comment dire, de prendre plus que faute de cause, enfin, d'épouser la cause du pharaon du temps. Ça aurait été l'échec du christianisme d'ailleurs, mais c'est une autre dimension. Alors regardez ce que dit Rashi sur ce propos, la fin du verset 5. Yosef haya ben Mitzrayim. Jette Rashi sur la sécheresse. Alors je lis, va'alohu vana vayu bichlal shevim, ou mabal elav lenu. N'est-ce pas que nous savons déjà que lui et ses enfants, Joseph et ses enfants, faisaient partie du nombre des 70 personnes. Que vient nous apprendre ce verset? Vechilo haynu yodim shayu shehu haya ben Mitzrayim. Est-ce que nous ne savions pas déjà, du point de vue de l'information pure et simple, que Joseph était dans l'Égypte, et là, mais, et au Diacha, c'est pour te faire savoir, Tzidkato chez Joseph, le mérite de Joseph, Rou Yosef, Aroa et Pecha Patol, et de son habit, ce même Joseph, qui faisait paître les troupeaux de son père, Rou Yosef chez Ayabé Mitzrayim, c'est ce même Joseph qui était en Égypte, mais Naasa Melech, il est devenu roi, Veromed Besitko, et a résisté, s'en est tenu à sa vertu. Il est resté tzaddik. Voilà, on met en évidence ici un problème très important. Nous l'avons appris du point de vue du texte, la différence entre ces deux mots, Mitzrayima, en direction de l'Égypte, pour l'ensemble de la famille de Jacob, et Ben Mitzrayim, en Égypte même, pour Joseph lui-même, mais c'est une différence de nature. Et alors, ce que je veux mettre en évidence, c'est que on va se dévoiler le personnage de Moïse. Or, c'est lui qui va être le levier, le véhicule de tous les événements qui vont nous être racontés. Avec en alliance avec son frère Aaron. Je vais quand même mettre cela en évidence, c'est que Aaron se trouvait dans le pays de Goshen, et il était le grand prêtre des Hébreux déjà à l'époque. Moïse et Aaron étaient les fils du chef de la tribu de Lévi. Alors Moïse était au palais du Pharaon, à la tête de la civilisation égyptienne, alors que Aaron, c'était le grand rabbin du pays de Goshen, c'était le chef des Hébreux dans le ghetto. Et nous allons voir tout de suite une collaboration entre Aaron et Moïse. nous avons enlevé tout à l'heure un texte. Où, je ne sais pas si c'est déjà ce soir qu'on va le rencontrer. En fait, lorsque Dieu se révèle à Moïse dans la vision du buisson ardent, lorsque Moïse est déjà enfui à Midian, Dieu annonce à Moïse que sur le chemin du retour, il va rencontrer son frère Aaron qui va à sa rencontre, et que Aaron, allant à la rencontre de Moïse, le Samar Alibo sera plein de joie à Aaron de rencontrer Moïse. Je voudrais mettre en évidence, ensuite on verra le verset de Seigneur ce soir, c'est cette scène de la rencontre entre Moïse et Aaron. Oui, ces deux personnages, nous les lecteurs, nous savons qu'ils sont deux frères de la même famille. Mais qui le sait? Tout juste eux. Et encore, c'est secret. L'un va se présenter, j'ai employé le terme anachronique du temps contemporain, comme un chaliard de la Halia, pour déclencher la Halia des Hébreux d'Égypte. Et l'autre va se présenter comme le rabbin du ghetto juif. Imaginez la rencontre entre ces deux personnages, et ça se fait dans la joie de la rencontre entre deux frères. Alors que de notre temps, quand le chaleur d'Aria arrive dans une synagogue, on se regarde avec des yeux perçants. Vous voyez ce que je veux dire. La scène qui se met en place est exceptionnelle en tant que modèle de ce qui se passe en un temps de fin d'exil. Quoi qu'il en soit, ce que je veux mettre en évidence d'abord, pour commencer, c'est ceci. C'est que Joseph et Moïse ont le même profil d'identité, mais radicalement inversé. Joseph, c'est l'hébreu qui s'est mis au service de la civilisation égyptienne, et qui, en fin de compte, est revêtu de l'habit royal de l'Égypte et est sur le trône du pharaon, Joseph. Et voilà que les événements se développent, et on arrive à une situation qui fait surgir, qui fait émerger une identité inverse, qui est l'identité de Moïse. Moïse, qui est l'hébreu, l'hébreu par excellence, le fils du chef de la tribu de Lévi, qui se trouve à la place de Joseph, habillé de l'habit royal du pharaon, impérial, il faudrait dire, et à la tête de la civilisation égyptienne, et qui, lui, va mettre fin à l'aventure qui a commencé avec Joseph. Je pense que c'est suffisamment clair. Il faut bien être ça en évidence. Nous avons là le cycle de l'exil, qui est, encore une fois, formulé de façon exemplaire. En hébreu, c'est le degem. Degem, c'est plus que le modèle. C'est la structure même de ce qui se passe dans une période d'exil. Ça commence par l'aventure Joseph, qui aboutit à l'apparition de Moïse. Et il faut bien mettre ça en évidence. Les frères de Joseph ont eu une énorme difficulté à caisser, à découvrir que celui qui était sur le trône du pharaon, c'est leur frère Joseph. Et de la même manière, les Hébreux, du temps de la sortie d'Égypte, ont eu une énorme difficulté à admettre Moïse. Et imaginez Moïse sortant du palais du pharaon, c'est l'Égyptien par excellence, et c'est lui qui se dévoile comme étant Moïse qui va prendre la tête du peuple d'Israël pour la sortie d'Égypte, la révélation de la Torah et l'histoire des Hébreux. Est-ce que vous percevez cette espèce de contraste, et nous vivons cette histoire. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes pris dans ces mêmes pièges d'incompréhension. Je veux dire, on est encore au stade où les Hébreux ne reconnaissent pas Moïse. Enfin, pas tous, mais en tout cas, pas suffisamment. Et je me souviens encore du temps où la réaction du ghetto juif à l'apparition de Moïse dans l'histoire d'Israël contemporaine, c'est-à-dire celui qui déclenche la fin de l'exil et les événements du retour, a été un émoute, un conflit, et non pas du tout cette alliance que la Torah nous raconte entre Moïse et Aaron, et vous savez encore que la majorité, l'immense majorité du personnel rabbinique est anti. Comment il faut dire ? Anti-Moïse. Vous voyez que c'est la même histoire que nous vivons, et je ne sais pas qui disait que les Français ne tirent jamais les leçons de leur histoire parce qu'ils ne connaissent pas la géographie, mais je crois que c'est que les Juifs, c'est pire. On a beau revivre les mêmes situations, c'est exactement dans les mêmes ornières, mais en pire. Bien, alors n'oublions pas qu'effectivement Moïse va être accompagné de cette difficulté de l'identification par son propre peuple. très vraiment, on a oublié cela. Que pour cette génération d'Israël, Moïse, c'est l'Égyptien par excellence. Je vous indique tout à l'heure, si on a le temps, dans des versets très précis, il est l'assimilé par excellence. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. Si c'est cela l'histoire de Moïse, on a bien compris, c'est celle, pour prendre des termes anachroniques contemporains, du juif le plus assimilé qui devient le juif le plus dévoilé, alors tous les espoirs sont permis pour les juifs les plus assimilés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si c'est à Moïse c'est arrivé, et c'est lui qui en est le modèle, alors il faut comprendre cette histoire du peuple juif au niveau de la sociologie immédiate et profonde d'ailleurs, à travers cet enseignement de la, Torah. Et nous avons donc assisté à la vocation de Moïse. On a appris entre temps donc que Moïse, sauvé des eaux, adopté par la fille du pharaon, va devenir l'héritier présomptif du pharaon souverain. Selon le Midrash, il est chargé par le pharaon de la direction générale des camps de concentration où il y avait les Hébreux. C'est intentionnellement que j'emploie le terme de camp de concentration pour montrer la limite d'étonnement que nous pouvons avoir. Imaginez que le Himmler de ce temps-là, ben c'était Moïse lui-même, celui qui était à la tête des camps de travail des Hébreux. Je répète, parce que vous n'avez pas l'air de vous étonner. Et c'est lui qui va diagnostiquer que l'histoire doit passer par Israël et pas par l'Allemagne de ce temps, disons pas, et pas par Paris. Alors on va lire les versets qui vont déclencher cette vocation. Donc le premier thème que je voulais mettre en évidence, c'est cela, le profil d'identité du relais que Moïse prend de l'histoire de Joseph. Et vous vous rappellerez que par la suite, en de la salle à Passion de Chalaf, Moïse ne quittera pas l'Égypte sans emporter avec lui les ossements de Joseph. Moi je voudrais quand même citer quelque chose d'important. Si Moïse, pendant que tout le peuple était occupé à sa sortie d'Égypte, et Dieu sait que ce n'est pas facile, Moïse était préoccupé d'une seule chose, retrouver le sarcophage de Joseph et l'emporter avec lui. La misère donne deux raisons. Parce que les Égyptiens, comme d'ailleurs cela a été le cas de toutes les civilisations traversées par le génie d'Israël, avaient l'habitude d'adorer leurs grands hommes. Alors ils auraient adoré la momie de Joseph. Et ils l'auraient transformé en un mythe d'idole. Ils auraient fait une sorte de culte d'un saint sépulcre du sauveur qui nous avait sauvés. Reconnaît tout ce vocabulaire parce que c'est exactement la même chose. Les civilisations ont toujours adoré les traces de Joseph à travers elle. Que ce soit Joseph, soit le fils de Joseph, que ce soit Joseph, Staline, tu vois, il s'appelle encore Joseph. Et ça, c'est une coïncidence. Alors, il l'embaume et puis il l'adore. Et alors, déjà, Jacob avait donné comme consigne qu'on ne laisse pas son corps en Égypte parce qu'il ne voulait pas être adoré sous forme de mythe et d'idole. Le thème qui est là est extrêmement important. C'est-à-dire que les civilisations ont la préscience, l'intuition, bien aussi culturelle, traversée par une identité divine, et alors une idolâtrie de leur sauveur. Et leur sauveur est toujours un hébreu à l'origine. Vous voyez à quel point il y a une cohérence de cette histoire. Ça, c'est la première raison dans le Midrash. La deuxième raison est plus profonde, c'est expliqué dans le Zohar. Si Moïse avait quitté l'Égypte sans emporter le sarcophage de Joseph, ça voulait dire que la sortie d'Égypte aurait disqualifié l'aventure inaugurée par Joseph. Ça aurait été renvoyé à une préhistoire reniée en emportant avec lui les ossements de Joseph. C'est-à-dire qu'il intègre cette aventure qui avait abouti à l'échec, mais il intègre comme préhistoire de ce qui commence dans l'histoire d'Israël avec lui. Est-ce que l'idée est claire? Et effectivement, il faut se rendre compte de cela. La Torah, comme code, a décidé qu'elle aurait une préface historique qui raconte l'histoire de l'échec de la tentative de Joseph. La Torah est révélée comme conséquence de l'échec de la tentative de Joseph. Il faut savoir cela. La Torah des Hébreux, c'est la Torah de Judas et qui met fin au rêve de Joseph. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, la préface de la Torah comme loi, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Et le critère de toutes les mitzvot, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie. C'est-à-dire la Torah ne concerne que ce qu'on fait le bilan de cette génération de la sortie d'Égypte. La tentative de Joseph est un échec. Je ne formulerai pas d'autres formulations, ça suffit déjà pour comprendre cela. C'est que la Torah elle-même nous raconte l'histoire d'une tentative de type Joseph jusqu'au bout, son échec, et à ce moment-là seulement Israël devient Israël lorsqu'il reçoit de Moïse qui a fait la sortie d'Égypte la Torah du Sinaï. Est-ce que c'est bien clair? Vous comprenez les implications que ça a? C'est-à-dire ça, ça va en brèche, comme on dit ça en français, complètement la position des judaïsmes religieux qui est en dehors d'Israël. C'est-à-dire, c'est... Et je me trouvais il y a quelques jours à Paris, et j'entendais à la radio juive de Paris un rabbin, très sympathique d'ailleurs, et certainement convaincu de ce qu'il disait, qui parlait de la sortie d'Égypte, en disant à Paris que chacun doit sortir de sa propre Égypte. Regardez comment ça se transpose tout de suite dans une religion mythique. Alors qu'il parle de la sortie d'Égypte, il est rabbin d'une synagogue de la banlieue parisienne. Il exhorte ces juifs à sortir de leur propre Égypte intérieure. Je ne sais pas si vous voyez où, pour aller où, sur la place de la Concorde. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité du drame. Est-ce que c'est clair? C'est énorme. Et alors, quand les curés écoutent ça, ils doivent se dire ce peuple, c'est vraiment le peuple à la nuque, raide. Parce que. Joseph en Égypte, ça c'est le christianisme, c'est Joseph à Rome. Mais Joseph à Paris, ça c'est les. Bon, vous avez compris le problème. Il faut bien réfléchir à ça. Une des conséquences de la transformation de l'identité à travers l'exil, ça a été de transformer la Torah en une confession religieuse de type chrétien. Je reviens en tout cas au. Et ça s'appelle le judaïsme en diaspora. Je reviens en tout cas au texte. Il y a une expression dans le premier verset du chapitre 2 que vous allez prendre qui nous montre d'abord ce caractère anonyme de l'identité hébraïque dans l'exil. Je reviendrai sur ce terme d'anonyme. Alors, premier, le chapitre 2, verset 1. Vayeler ish mi bet Lévi, et un homme de la tribu de Lévi. On ne dit pas qui c'est. On va apprendre par la suite qu'il s'agit de Amram, le père de Moïse, qu'il s'agit très exactement du chef de la tribu de Lévi. Vayeler Ish Bet Lévi. Et un homme de la tribu de Lévi, Ish, vous savez, dans l'hébreu biblique, c'est une personnalité. L'homme hébreu par excellence. Ish Bet Lévi. Vayikar et Bat Lévi, et il prit la fille de Lévi. Alors, je m'appuie rapidement sur le commentaire pour indiquer ceci. Lorsque la persécution s'est tellement appesantie sur les Hébreux, il y a eu une réaction qu'on appelle, dans l'histoire des sociétés, une réaction de tendance au suicide cosmique, c'est-à-dire arrêter d'avoir des enfants parce que la vie devient insupportable. À partir du moment où une société diagnostique qu'elle est sous le coup de la disparition par la persécution, sa réaction c'est de refuser d'avoir des enfants. Et alors, le premier qui avait décidé de se séparer de sa femme, c'était Amram et Yochebed, sa femme, comment on dit en français Yochebed ? Et tous les autres, ils ont donné l'exemple, et tous les Hébreux sont séparés de leur femme. Et j'ai compris ça quand je faisais mes études d'ethnologie. Et on a étudié avec Lévi-Strauss des sociétés indiennes d'Amérique qui, lorsque les chefs qui ont disparu, énormément de sociétés, il s'agissait d'une société qui s'appelait les Nambikwara, je me rappelle très bien, qui arrivait à diagnostiquer le fait qu'ils ne tiendraient pas le coup devant la civilisation européenne qui arrivait en Amérique, ils décidaient ce que les ethnologues appellent le suicide cosmique, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des enfants. En particulier, une de ces sociétés, dont le nom m'échappe, n'arrivait pas à combattre le rhume. Ils n'étaient pas immunisés contre le rhume que les Européens amenaient. et les gens mouraient du rhume parce qu'on ne savait pas soigner le rhume. Je ne sais pas si on a déjà découvert qu'on a du rhume, mais dans tous les cas, les Européens ont des anticorps, enfin, sont secrètes des réactions naturelles contre le rhume. Il paraît que c'est une dernière maladie qu'on ne sait pas soigner. Est-ce que je prophétise ou est-ce qu'on a déjà trouvé un remède? Bon, quoi qu'il en soit, j'étais un de ces gens. Alors, les sorciers ont décidé, il ne faut plus avoir d'enfants. Ça s'appelle le suicide consciencieux. Le suicide volontaire, lorsqu'une situation apparaît comme insupportable. Alors que la réaction des Hébreux en Égypte avait été au contraire de résister à la persécution par la démographie. C'est ce qui avait alerté les Égyptiens. Une démographie galopante des Hébreux. Et alors les Égyptiens craignaient d'être envahis par le nombre des Hébreux. Mais quoi qu'il en soit, le Midrash ici raconte que la sœur de Moïse, Myriam, intervient et fait comprendre à son père que sa décision est beaucoup plus grave que celle du Pharaon. Parce que le Pharaon avait décidé de tuer les enfants mâles et de s'approprier les filles pour s'approprier la matrice d'engendrement d'Israël, et alors que lui, le chef de la tribu Lévi, avait décidé de tuer tous les enfants à naître. Et une deuxième dimension, c'est que le Pharaon leur a enlevé ce monde-ci, alors que le fait de les empêcher de naître leur enlève le monde à venir. Vous avez compris le lien. Et voilà que ce que la Torah nous raconte ici est absolument exemplaire. Une réaction de ce peuple qui est en train d'être persécuté, qui risque de disparaître par la persécution et l'assimilation, et qui fait que, en fin de compte, il y a l'émergence de cette identité de Moïse qui va prendre la tête de cette civilisation égyptienne. Je crois que ce n'est pas la peine de prendre trop de temps pour tenter de décrire comment, à travers l'histoire, ça s'est passé dans toutes les communautés juives et dans tous les pays que nous avons traversés, où un peuple d'immigrés, de réfugiés, arrivant comme des métèques, arrive finalement à installer ses élites aux affaires du pays. Et puis, c'est là que, effectivement, il y a le risque de la réaction de l'antisémitisme qui arrive inévitablement en second lieu, je crois, de notre temps. L'exemple le plus évident aurait été l'exemple du judaïsme allemand. Ceux qui ont étudié l'histoire du judaïsme allemand du siècle dernier savent à quel point la symbiose judéo-allemande avait été un phénomène culturel de très haut niveau. Et la réaction a été le nazisme. De la même manière qu'en Espagne, avant l'Inquisition, la symbiose judéo-espagnole avait été une réussite extraordinaire. La réaction a été l'Inquisition. Chaque fois qu'il y a... c'est un indice que la Torah indique. Chaque fois qu'il y a réussite de cette symbiose, il faut commencer à craindre que ce qui risque d'arriver, c'est du genre choix. Je crois que j'en dirai pas plus, mais actuellement, l'endroit du monde où il y a le plus grand danger de cela, c'est...